Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir. Au Gabon, Rose Christiane Ousuka Raponda devient la première femme chef de gouvernement. Une mission de la CEDEAO est arrivée hier à Bamako. La contestation suspend la manifestation qui était prévue pour demain au Mali. La justice togolaise émet un mandat d'arrêt international contre l'opposant Agbeyome Kodjo. Twitter enquête sur le piratage de comptes visant personnalités et entreprises américaines. Également, dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. Au Gabon, Rosine Ousuka Raponda devient la première femme première ministre. Elle remplace au poste Julien Kogé Bekele. La nomination de l'ancienne ministre de la Défense à la primature intervient en pleine crise sanitaire de la Covid-19 dans le pays, associée à la crise économique. Le point à Libreville avec notre correspondant Ismaël Obiangze.
Elle n'aura passé que 7 mois à la tête du département de la Défense. Rose Christiane Ousuka Raponda, 56 ans, devient la première femme à occuper le poste de premier ministre dans l'histoire du Gabon. Elle avait fait son entrée au gouvernement pour la première fois en 2012 comme ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. L'ancienne édile de la capitale gabonaise est réputée être une femme de caractère, travailleuse et compétente, militante du Parti démocratique gabonais, le PDG au pouvoir. Elle est aussi la première femme à avoir été élue maire de la capitale gabonaise depuis 1956. À l'hôtel de ville, elle a mené d'importantes réformes et assaini les finances de la mairie. Au terme de son mandat, elle a laissé un excédent budgétaire de 27 milliards de francs CFA. Pour les analystes politiques, sa nomination à la tête de la primature est la preuve de la matérialisation de la volonté du chef de l'État Ali Bongo Ondimba de faire de la décennie 2015-2025 celle des femmes. La nouvelle première ministre, diplômée en économie avec une spécialisation en finances public devra former rapidement son équipe pour faire face aux urgences de l'heure, à savoir la pandémie du Covid-19 et le marasme économique. Libreville, Ismaël Obiangze pour VOA Afrique.
Le président Félix Tshisekedi de la RDC a eu aujourd'hui à Brazzaville des entretiens avec son homologue Denis Sassou Nguesso. Ils ont parlé des difficultés de la coalition CASH-FCC à Kinshasa, mais M. Tshisekedi se dit optimiste sur l'avenir de cette coalition. Ils ont discuté ensuite du Covid-19, de la coopération entre les deux États au niveau des experts. Par ailleurs, à Brazzaville, la marche pacifique organisée par une coalition de la société civile pour réclamer l'évacuation de l'opposant emprisonné Jean-Marie Michel Mokoko a été interdite en raison des risques de propagation du coronavirus, selon les autorités. Au Mali, pour trouver une solution à la crise politique et institutionnelle que le pays connaît, une mission de la CEDEAO est arrivée hier à Bamako. Elle doit rencontrer tous les protagonistes de la crise, les acteurs politiques, la société civile et les autorités maliennes. Le MPRFP, qui devait organiser une prière collective à la place de l'indépendance, l'a délocalisée dans les lieux de culte du pays. Kassim Traoré, notre correspondant à Bamako.
Pour des raisons hautement stratégiques, le M5-RFP a décidé de modifier la façon de rendre hommage aux martyrs du 10, 11, 12 et 13 juillet 2020. Au lieu du rassemblement sur la place de l'indépendance, les cérémonies se tiendront sur tous les lieux de culte sur l'ensemble du territoire national. C'est ce qu'a expliqué Dr. Shogel Kokala Maiga avant d'ajouter qu'après les recueillements, la désobéissance civile va continuer. Arrivé hier en fin d'après-midi à Bamako, la mission de la CEDEAO fait suite à celle dite ministérielle du 18 juin dernier. L'ancien président du Nigeria, Goodluck Jonathan, est à la tête de cette délégation. Kala Ankuraou, ministre des Affaires étrangères du Niger.
Nous sommes revenus avec cette fois-ci un médiateur nommé par la CEDEAO et que nous allons assister, nous allons travailler le temps qu'il faut. Nous ne serons plus pressés, nous ne serons pas pressés de repartir.
Goodluck Jonathan a rencontré dès son arrivée Ibrahim Boubacar qui était en tête à tête. Ce matin, il était avec la classe politique, opposition et majorité. Dans l'après-midi, ça sera le tour des organisations de la société civile Bamako. Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Togo, la justice a émis un mandat d'arrêt international contre l'opposant Agbeyome Kodjo, arrivé deuxième à la présidentielle et qui, selon un de ses avocats, vit maintenant dans la clandestinité. Les précisions de John Linden.
Un mandat d'arrêt international a été délivré contre Kodjo Agbeyome. Nous l'avions appris hier auprès du juge d'instruction, a déclaré ce matin Maître Darius Kokuatso, son principal avocat. C'est un acte d'acharnement de plus contre Monsieur Kodjo qui n'entame en rien notre détermination à faire éclater la vérité juridique dans cette affaire, a-t-il souligné. Monsieur Kodjo avait refusé de se présenter à une convocation de la justice le 10 juillet, assurant dans une déclaration diffusée sur les réseaux sociaux qu'il craignait pour sa vie. Le procureur de la République, Esolisam Poyodi, a confirmé qu'un mandat d'arrêt a été lancé à l'encontre de l'opposant. Depuis, Agbeyome Kodjo reste introuvable, mais a assuré dans un message être resté au Togo dans la clandestinité car sa vie est en danger. L'opposant est placé sous contrôle judiciaire depuis le 24 avril, après avoir passé 4 jours à la gendarmerie nationale et est interdit de quitter le Togo sans autorisation. Monsieur Kodjo a officiellement obtenu 19,46% des suffrages à la présidentielle du 22 février contre 70,78% à Fornia Simbé. L'opposant conteste les résultats et même s'était autoproclamé président élu. Son immunité parlementaire a été levée en mars à la demande du parquet de Lomé.
Dans un discours à la télévision nationale, le président guinéen Alpha Condé a annoncé la reprise des vols commerciaux. La réouverture de l'espace aérien guinéen sera effective à partir de demain, le 17 juillet. Elle sera progressive et s'appliquera sur la base du principe de réciprocité vis-à-vis du pays d'origine et selon des règles d'observation sanitaire strictes en rapport avec la Covid-19, a annoncé le président guinéen. L'état d'urgence a été prolongé pour la seconde fois pour une période de 30 jours. 2,36 millions de personnes, soit près de la moitié de la population de la Centrafrique, est en situation d'insécurité alimentaire aiguë, aggravée par le coronavirus, selon l'ONU. Cette proportion était de 40% il y a un an. Cette dégradation, selon l'ONU, est due au regain des conflits entre groupes armés et à la persistance des conflits intercommunautaires.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'Ouganda a commencé un test collectif de ses 426 députés et personnels de l'Assemblée nationale. Les députés ougandais ont réclamé ces tests en raison des fréquents contacts qu'exigent leur mandat. C'est ce qu'a affirmé la porte-parole Hélène Kaweza, démentant des informations faisant état de l'hospitalisation d'un d'entre eux. Avec l'apparition de signaux de reprise de l'épidémie, la France rend le masque obligatoire dans tous les lieux clos ouverts au public, en particulier les commerces, dès la semaine prochaine. L'Espagne compte désormais 120 foyers actifs. En Russie, le défilé du régiment immortel prévu le 26 juillet, qui rassemble chaque année des centaines de milliers de personnes dans les rues, a été annulé. Le Kremlin a démenti toute ingérence dans les élections britanniques de 2019 et toute tentative de vol des recherches en cours sur un vaccin contre le coronavirus, après des accusations britanniques en ce sens. Twitter a ouvert une enquête sur le piratage massif hier des comptes de personnalités sur son réseau, remettant sur le devant de la scène la question de la cybersécurité. Eric Manirakiza.
Des messages postés sur les comptes piratés, pour la plupart rapidement supprimés, donnaient aux internautes 30 minutes pour envoyer 1 000 $ en bitcoins afin de gagner le double de cette valeur en retour. Selon le site spécialisé blockchain.com, qui trace les transactions effectuées en crypto-monnaie, un total de 12,58 bitcoins, soit près de 116 000 dollars, a été envoyé vers l'une des adresses mentionnées dans les tweets frauduleux. Les comptes d'Elon Musk, le patron de Tesla, de Bill Gates, cofondateur de Microsoft, Jeff Bezos, patron d'Amazon, de l'ex-président Barack Obama, du candidat démocrate Joe Biden, de l'ancien maire de New York Mike Bloomberg ou encore le richissime Warren Buffett ont affiché pendant un temps des messages au contenu similaire. Le réseau à l'oiseau bleu a déjà été victime d'attaques ciblées dans le passé. En août dernier, une série de messages insultants ou racistes ont été publiés à son insu sur le compte personnel de Jack Dorsey, le patron de Twitter. Le piratage de ce mercredi semble toutefois d'une toute autre ampleur et suscite de nombreuses interrogations à quelques 3 mois de la présidentielle américaine.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco avec Nanit Talani.
L'Angola est sur le point d'émettre de nouveaux billets à la fin du mois. D'après José Massano, gouverneur de la Banque centrale angolaise, ces nouveaux billets de 200, 500, 1000, 2000 et 5000 kwanza vont coexister avec ceux de la série 2012, encore en circulation jusqu'en 2021. Les billets de 10 000 kwanza ne devraient entrer en circulation que si cela s'avère nécessaire. L'Égypte veut investir 32 milliards de dollars à l'horizon 2024 pour exécuter une vingtaine de projets destinés à étendre le métro du Caire. Cette extension concerne entre autres la troisième ligne du métro de la capitale égyptienne. Longue de près de 44 kilomètres, elle ira de l'aéroport au quartier ouest du Nil sur 34 stations et renforcera la capacité totale du métro qui transporte 3,5 millions de passagers par jour. Pour terminer, le Malawi bénéficiera de 157 millions de dollars de la Banque mondiale pour améliorer la gestion des terres et l'accès à l'eau. Ce projet aidera plus de 250 000 personnes en zone rurale et créera 25 000 emplois. Il permettra aussi de construire des infrastructures hydrauliques d'une valeur de 45 millions de dollars, dont 10 petits barrages polyvalents, 20 structures de collecte des eaux de pluie et 10 petits systèmes d'irrigation.
Et maintenant, la page sport, présentée ce soir par Yakuba Ouédraogo. Bonsoir Yakuba.
Bonsoir à tous. L'international congolais Chancel Mbemba, le Camerounais Vincent Aboubakar, le Malien Moussa Mariga et le Cap-Verdien Zé Luis sont champions du Portugal. Leur club, le FC Porto, a remporté son 29e titre de champion en battant le Sporting 2-0 pour creuser un écart décisif devant son dauphin, le Benfica Lisbonne. Devant des tribunes vides, les buts de ce classico lusitanien ont été signés par le Portugais Danilo Pereira à la 64e et l'international malien Moussa Mariga à la 91e, à 2 journées de la fin du championnat et au lendemain de la victoire du Benfica face au Vitória Guimarães 2-0. Porto dispose désormais d'une avance de 8 points face à son rival assuré de terminer deuxième devant le Sporting ou Braga. Et puis l'Ajax Amsterdam s'est offert la pépite ghanéenne Mohamed Kudus, auteur d'une saison exceptionnelle avec le FC Nordjylland. Kudus quitte ainsi le Danemark pour les Pays-Bas. Le jeune joueur de 19 ans, formé à l'Académie Right to Dream au Ghana, a signé avec le club néerlandais contre la somme de 9 millions d'euros et a paraffé un bail de 5 saisons. Cette saison, Mohamed Kudus a inscrit 12 buts en 28 rencontres et est le joueur qui a plus dribblé dans le championnat danois. La société nigériane de jeux en ligne BetKing est devenu le nouveau sponsor en titre de la Premier League kényane de football dans un partenariat de 11 millions de dollars qui durera jusqu'en 2025. La fédération kényane a déclaré que ce parrainage est le plus gros contrat de l'histoire du football kényan. Le football kényan justement a fait face à une crise financière après la sortie du sport PESA en septembre 2019 à la suite d'une longue dispute fiscale avec le gouvernement. La résiliation du contrat du sport PESA qui devait durer jusqu'en 2022, a fait que de nombreux clubs ont eu du mal à payer les salaires et les indemnités mensuelles aux joueurs. Ici, en basketball, l'espoir de la balle au panier originaire de la République démocratique du Congo, Jonathan Kuminga, a signé pour jouer dans la NBA G League la saison prochaine. Kuminga est classé par ESPN comme le numéro 4 du pays et le meilleur joueur du New Jersey dans la classe de 2020. La NBA G League donne aux meilleurs jeunes espoirs une chance de commencer leur carrière professionnelle tout en recevant un mentorat. Kuminga aura donc l'occasion d'accélérer son développement sur le terrain en apprenant le basketball de style NBA. Il rejoint ainsi Jalen Green, Isaiah Todd, Daishen Nix et KS Soto en tant que meilleurs recrues du secondaire qui ont signé pour jouer dans la NBA G League pour la saison 2020-2021. Le quintuple champion de la NBA, Brian Shaw, sera l'entraîneur en chef de leur équipe.
Merci Yakuba. êtes toujours à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour. La Covid-19 a finalement eu raison des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar 2022. Le premier événement olympique prévu sur le continent africain aura finalement lieu en 2026. Le report conjointement décidé par le Sénégal et le CIO a été approuvé par la commission exécutive et sera soumis pour ratification à la session du CIO ce vendredi 17 juillet 2020. Le point avec notre correspondant à Dakar, Sedina Abagaye.
Si le report a été très vite acté et accepté par le monde sportif, le choix de 2026 était incompréhensible pour certains. C'est donc la première équivoque que le président du comité d'organisation a levé, Mamadou Diagne Ndiaye, justifie ce report de 4 ans par rapport à la date initiale.
La seule plage qui était disponible, c'était 2026. Comme vous le savez, 2021, c'est les Jeux d'été à Tokyo. 2024, c'est Paris. 2026, c'est Dakar. C'était la seule date disponible. Donc, c'est quelque chose qui s'inscrit tout naturellement dans l'agenda olympique et qui, n'a pas d'impact sur le rythme des préparations. Nous n'étions pas, encore une fois, en retard.
Cette décision est certes dictée par l'impact de la Covid-19, mais il montre également le pragmatisme des autorités. C'est l'avis de Soham El-Wardini, maire de Dakar, qui renouvelle l'engagement de la municipalité.
Le report décidé par le Comité international olympique, de concert avec les autorités sénégalaises, est bien la preuve, s'il était encore nécessaire de la démontrer, que le Sénégal et son président, son Excellence, M. Macky Sall, mais aussi le CIO, savent agir avec lucidité et responsabilité quand les circonstances l'exigent. Nos équipes resteront mobilisées jusqu'en 2026 et l'engagement de la ville n'en sera que plus grand pour des jeux pour les jeunes, par les jeunes et avec les jeunes.
Les jeunes sont justement les plus impactés par ce report car le vivier ciblé pour 2022 est rattrapé par la limite d'âge. Et pour ne pas léser ces derniers, le ministre des Sports compte sur les fédérations nationales et les partenaires.
Les fédérations continuent le travail parce que les fédérations sont là pour faire de la promotion, faire de la détection, encadrer les jeunes, bien évidemment appuyé par le comité olympique qui ne cesse de donner des bourses aux meilleurs. Donc ce travail ne va pas s'arrêter. Au contraire, il faut l'intensifier. Il faut se dire qu'on a une échéance, ça peut être 2022, pour ne pas relâcher et continuer le travail qu'il faut. Non seulement on va encadrer ces jeunes-là, mais on va détecter d'autres qui pourront faire plus que ce qu'on pense de ces jeunes.
Le comité d'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar compte aussi mettre à profit ce report pour renforcer et améliorer l'offre que le Sénégal avait proposée au CIO. Parallèlement, des partenaires comme la France, le Japon et l'Espagne se sont déjà engagés à accompagner le Sénégal pour la réussite du premier événement olympique sur le continent africain. Désormais, le cap est pour 2026. À Dakar, Seydina Abagaye pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Les défenseurs des libertés individuelles en Europe crient victoire après l'invalidation par la justice européenne d'un mécanisme de transfert des données personnelles en ligne entre l'Union européenne et les États-Unis. Ce mécanisme était jugé trop peu protecteur face au programme de surveillance américain. Mais Washington se dit déçu par cette décision de justice et promet de continuer à travailler avec les Européens pour une résolution. Pour une analyse, Abdourahmane Dia, adjoint à Paris, Didier Simba, délégué à la protection des données personnelles au sein du groupe bancaire BPCE.
Il faut surtout remarquer, c'est que les grandes puissances aujourd'hui comprennent bien la nécessité de protection de données et on le voit clairement apparaître avec des cas comme la Chine, par exemple, qui a créé son propre Internet pour pouvoir le plus possible conserver ses données. Et l'Europe qui, dernièrement, c'est-à-dire en mai 2018, ils ont promulgué le règlement général sur la protection des données pour réglementer le plus possible les données des citoyens. Pourquoi cela? Simplement parce qu'aujourd'hui, les données, on ne se rend pas compte à l'ère du big data, c'est-à-dire des données massives. Plus on en a sur les populations, mieux on peut utiliser ces informations pour pouvoir soit influencer les avis des populations ou alors influencer les perceptions des populations et même les choix des populations et faire de l'intrusion même sur la liberté des populations. Et
justement, en fait, beaucoup de ces informations personnelles se retrouvent entre les mains de compagnies comme Facebook et qui peuvent les utiliser à des fins commerciales. Mais il y a aussi, disons, un risque pour que ces informations soient accessibles à des agences gouvernementales, n'est-ce pas?
Il y a déjà beaucoup de médias qui en parlent et ça se voit à très petite échelle. Avant l'entrée en vigueur du RGPD, c'est-à-dire le Règlement général sur la protection des données, en Europe précisément, on pouvait aller sur un site de vente, je ne pouvais pas le citer, ça pourrait être Amazon simplement, et en repartant sur Facebook, la chaussure qu'on avait regardée sur le site de vente se retrouvait sur notre Facebook. Et on peut donc se demander qu'est-ce qui fait qu'ils arrivent à échanger. Ben, c'est simplement parce qu'il y a un partenariat entre Facebook et le site de vente pour pouvoir continuer à faire de la publicité ciblée, on va dire. Ça, c'est une petite image. On peut se dire que ça peut aller encore plus loin. À partir du moment où je sais que telle personne est de tel bord politique ou telle personne est de telle confession religieuse parce qu'il l'a renseigné sur son compte Facebook, derrière, on peut utiliser mon appartenance politique ou mon appartenance religieuse pour influencer mon choix d'un candidat, par exemple.
Alors, en Afrique, on sait que beaucoup utilisent Internet, par exemple. Est-ce que cette question de la protection des données est prise au sérieux en Afrique? Est-ce qu'il y a une certaine prise de conscience sur cette question?
Il y a deux choses à faire, à mon sens. La première, c'est d'abord que les gouvernements africains ou alors les États africains prennent conscience, comme en Europe, hein, parce que c'est passé par une prise de conscience en Europe avant de mettre en place le Règlement général sur la protection des données. Donc, qu'ils prennent conscience et que la deuxième chose, c'est de sensibiliser le plus possible les populations pour leur dire, même si vous n'avez l'impression de ne rien caché, eh ben, sachez que naturellement vous donnez des informations et ces informations peuvent être utilisées contre vous à votre insu ou alors même permettre de faire de l'infiltration dans les États, dans vos pays et parfois être utilisées ou déstabiliser un pays.
C'était Didier Simba, délégué à la protection des données personnelles au sein du groupe bancaire BPCE. Aux États-Unis, Donald Trump a annoncé hier le remaniement de son équipe de campagne avec un nouveau directeur de campagne à moins de 4 mois de l'élection présidentielle. Cette réorganisation intervient alors que le 45e président américain est critiqué pour sa gestion de la crise sanitaire. De récents sondages donnent une nette avance à son adversaire démocrate Joe Biden. Pour une analyse, Bakasikoura a joint Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines.
Oh, je crois qu'à cause de la gestion de pandémique qui est à peu près mauvaise aux États-Unis, la population, les Américains ont tendance à favoriser Biden dans l'élection. Et les sondages montrent que Biden est en tête avec 50% contre 38%, je crois.
Oui, et ce qui a poussé Trump à changer de directeur de campagne ce mercredi?
C'est ça, il faut une autre stratégie. Il faut changer le message.
Et quel genre de message il pourrait apporter pour remonter dans les sondages?
Il peut, à mon avis, il est fort dans l'économie.
Oui.
Il est considéré comme un bon gestionnaire économique. Donc il faut parler de ça. Si nous sortons de cette pandémie, suivez-moi, nous aurons une économie plus forte que jamais. Ça doit être son message.
Sa tâche à ce niveau aussi semble compliquée parce que l'économie est frappée durement par le COVID.
C'est vrai, l'économie est frappée, mais avant la pandémie, c'était bon. Donc les Américains croient que c'est à cause de Trump que c'était très bon. Et si on peut finir avec la pandémie, on peut avoir confiance en lui pour une relance de l'économie. Et déjà, il y a des signes. Il y a le chômage qui baisse et le nombre de gens qui demandent l'allocation chômeur, ça baisse. et les gens qui rentrent dans le travail, ça augmente.
Alors, les deux candidats, hein, notamment Biden, se retrouvent toujours coincés. Ce qui est une situation quand même unique, hein, une campagne sans vraiment de campagne.
C'est vrai, mais c'est un peu tôt pour dire ça. C'est le mois de juillet. Je crois que la campagne vraiment commence au mois de septembre, après la rentrée. Qu'est-ce qui va se passer d'ici septembre? À mon avis, le problème pandémique va continuer. Mais je viens d'entendre que 67% des Américains portent des masques maintenant. Ça veut dire que, à mon avis, le nombre de cas de virus vont commencer à diminuer.
Et ce qui va être bien pour le président?
Bien pour le président aussi, bien pour Biden, parce qu'il pourrait faire campagne.
C'était Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines. La pandémie de COVID-19 a exacerbé les inégalités dans le monde. Aux États-Unis, le taux de décès dû au coronavirus chez les Navajos est presque deux fois plus élevé que la moyenne nationale, selon les données du département de la santé Navajo. Au Nouveau-Mexique, le reportage de Julie Tabot est relaté par Nathalie Barge.
Dans le paysage désertique de Two Gray Hills, au Nouveau-Mexique, une camionnette apporte de la nourriture et du bois de chauffe à une famille Navajo de 7 personnes dont le père est décédé du coronavirus quelques heures plus tôt. Les secouristes déposent les provisions devant la maison. Kim Smith dirige un groupe de femmes Navajo bénévoles qui fournissent un soutien à un nombre croissant de familles mises en quarantaine après le décès d'un parent.
Nous intervenons pour les membres de la communauté à un moment crucial.
Thank you.
Merci.
Aussi grande que la Virginie occidentale, la réserve n'a que 13 petites épiceries et près de 50% des Navajos sont au chômage. Tira Blackwater, une bénévole, est étudiante à l'université Stanford.
Il est vraiment important d'apporter cette nourriture, en particulier pour nos aînés qui sont plus à risque et pourraient être immunodéprimés.
La pandémie a exacerbé les inégalités dans les soins de santé, le logement et les services de base entre la nation Navajo et les États du Nouveau-Mexique, de l'Utah et de l'Arizona. Amber Crotty est déléguée du Conseil de la nation Navajo dans la région de Shiprock.
La pandémie fait juste la lumière sur les disparités qui existent déjà, ainsi que sur le manque de financement fédéral pour répondre aux besoins en matière de santé.
Cora So, jeune femme Navajo, tout juste diplômée de la faculté de droit de l'Arizona, a perdu ses grands-parents en mai dernier.
Ils ont commencé à se sentir mal et fin avril, ils étaient vraiment malades et ils ont été à l'hôpital. Ma mère m'a envoyé un texto me disant que mon grand-père était décédé. Puis l'après-midi, ma grand-mère est également décédée. Ils sont morts à quelques heures d'intervalle. La dernière fois que je leur ai parlé, ils avaient hâte de venir célébrer mon diplôme.
Chris Bischer, ancien président de l'autorité du logement en Navajo, pense que la pandémie a révélé le sous-financement chronique de la nation Navajo.
Le plus gros problème auquel nous sommes confrontés ne sont pas nouveaux. Disparités en matière de santé, d'emploi, d'éducation, disparités économiques, tous sont liés au financement du gouvernement américain.
En attendant, les jeunes femmes Navajo comme Kim Smith, Tira Blackwater et Cora So continuent de faire tout leur possible pour soulager la souffrance des membres de leur communauté.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Josène Morissin, Michel Joseph, Lionel Gaïma et Georges Léonard Sagnot. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24h/24, un seul site internet, voafrique.com. Sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.